Chapitre 28. On devrait l'arrêter. Tout de suite. Cette fille est déjà une anguille. Si elle découvre que nous sommes à deux doigts de la démasquer, elle nous filera entre les doigts. Didi soupira. Massa un poing lancinant dans sa nuque, pas tant le résultat du zèle policier du capitaine O que du manque de sommeil, auquel il allait falloir ajouter un petit déjeuner avec ses parents qu'elle n'aurait jamais dû programmer. À part ça, elle prit sa quatrième tasse de café noir, regarda sa main danser le mambo sous l'effet d'une overdose de café et absorba une gorgée. « Pour quel motif ? » interrogea-t-elle sa jeune et bouillonnante collègue. Phil hocha la tête, tout aussi dubitatif. Neil était assis à ses côtés. Toute l'équipe était réunie pour faire le point sur le meurtre de la veille et les dernières découvertes de la matinée. Les enquêtes criminelles connaissent des flux et des reflux. En l'occurrence, c'était plutôt la crue. Limite inondation, pour tout dire. Charlene Grant correspond au signalement de l'assassin, rappela O. Phil secouait déjà la tête. Au mieux, ça justifierait qu'on la fasse venir pour une parade d'identification, dit Didi. Mais on ne peut pas s'amuser à arrêter toutes les habitantes de Boston qui ont les cheveux bruns et les yeux bleus. Elles possèdent un 22, même calibre que l'arme du crime. Comme des milliers d'autres gens, probablement rien que dans ce pâté de maison. Analyse d'écriture, lança O. Surtout avec ce message dans le message. Didi était sceptique. J'ai transmis à Red Embowski les deux noms écrits à la main par Charlie et les trois messages recueillis sur les scènes de crime. Cet après-midi, il testera les messages des deux premiers meurtres, pour voir s'ils contiendraient le même message caché. Arrêtez-moi. Ensuite, il comparera le zigouigoui au jus de citron avec le message écrit à l'encre, pour déterminer s'ils sont de la même main. Et pour finir, il comparera l'écriture des deux messages avec la liste de noms dressés par Charlie. Mais il n'aura pas de rapport officiel à nous rendre avant lundi, et déjà il se plaint qu'on le bouscule. « Mobile, moyen, occasion !» s'écria le capitaine O en levant les bras au ciel. « Allez, quoi ! Vous n'allez pas me dire que je suis la seule à penser que Charlie est l'assassin !» O avait troqué sa petite robe noire de la veille pour une tenue plus sage, un chemisier bleu clair de chez Brooks Brothers. D'une coupe impeccable, il seyait à merveille à la jeune enquêtrice aux dents longues. Il rendrait aussi très bien à l'écran, songea Didi, si d'aventure des équipes de télévision la surprenaient en train de procéder à une arrestation de première importance. « La question n'est pas de savoir ce que nous pensons, » répondit Didi, moins patiente, plus sèche. « Mais de savoir ce que nous sommes en mesure de prouver. » Neil intervint. « Je crois qu'on devrait l'arrêter. » Il avait la mine maussade. Une fois n'est pas coutume, sa tignasse rousse était lissée sur son crâne et ses maigres épaules étaient voûtées. Il avait à peine ouvert la bouche depuis le début de la réunion, préférant contempler un point fixe sur la table. O, s'étant enfin trouvé un allié, s'engouffra dans la brèche. « Elle risque de fuir. Si on perd trop de temps à aligner nos batteries, elle nous faussera compagnie. »
« C'est pour ça qu'en règle générale, on n'informe pas les principaux suspects de nos stratégies d'enquête, » grommela Phil.
« Et comment elle pourrait ne pas s'en douter ?» se récria O. Montrant Didi du doigt, « Elle veut la convoquer pour une parade d'identification. » Tu ne crois pas que ça lui mettra la puce à l'oreille ?
Je n'ai pas dit qu'on la convoquerait pour une parade, rectifia Didi. J'ai dit que c'était tout ce qu'une concordance avec un signalement pouvait nous autoriser à faire. Et maintenant, range ce doigt avant de blesser quelqu'un.
Fusillant Didi du regard, O baissa la main.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Demander un mandat pour fouiller sa chambre ? Saisir son 22 ? Ah, c'est sûr, ça nous donnera des preuves. Mais oh, zut alors ! Elle sera au Canada avant qu'on puisse lui passer les menottes.
Didi soupira. Elle regarda O, regarda Neil, avant de se tourner vers Phil.
« Cette jeunesse, » soupira-t-elle.
Le père de quatre enfants approuva. Il avait pu dormir d'une traite la nuit précédente, ce qui faisait de lui la seule personne sensée de la pièce. Didi prit une gorgée de café pour se remonter et attaqua. « Neil, quand est-ce que tu vas te décider à nous dire que tu as rompu avec Ben ?» Ben était le légiste et Neil avait dû le voir la veille au soir quand il avait accompagné la dépouille de la dernière victime à la morgue.
« Pas vos oignons, » marmonna son rouquin de collègue.
« Oh que si. Votre relation n'était pas à proprement parler une liaison entre collègues, mais limite. Nous collaborons avec les services du légiste. Ta rupture a des répercussions professionnelles et tu le sais. Alors accouche. Qu'est-ce qui s'est passé ?»
On fait une pause.
Phil leva les yeux au ciel.
« Oh, merde !»«
Il dit que je suis trop jeune, » éclata Neil. « Que je manque d'expérience. Il voudrait que j'aille faire les 400 coups ou une connerie du genre.
Que tu deviennes un homme, suggéra Didi.
Va te faire voir.
Ça ne résoudra pas ton problème. C'est vrai que tu es jeune et que tu manques d'expérience. Tu es aussi un enquêteur très prometteur qui passe beaucoup trop de temps planqué derrière ses collègues. Tu veux grandir ?
Peut-être.
Didi lui fit les gros yeux. Il se redressa.
Oui.
Alors on t'envoie à l'école nationale. Ça consolidera ta formation et ton expérience. Et comme tu es un garçon intelligent et plein d'avenir, il se pourrait même que ça te plaise.
Quand ?
Il va falloir que tu passes quelques coups de fil pour le savoir. De préférence avant que Phil et moi ayons envie de t'étrangler.
Organ sera d'accord ?
Cal Organ était le commissaire divisionnaire de la brigade. Il faudrait qu'il présente la candidature de Neil à l'école et, si elle était acceptée, qu'il débloque le financement.
« À ta place, je le lui demanderai très gentiment », lui conseilla Didi.
Neil fit la moue, tapota la table du plat de la main.
« Ça marche. »
Didi leva à son tour les yeux au ciel. « Ne me remercie pas. Bon, puisque tu es en phase d'acquisition de nouvelles compétences, pourquoi tu n'irais pas avec Phil interroger la famille de la victime ?» Ils avaient finalement identifié le jeune pédophile assassiné la veille. Barry Epson, 16 ans. Originaire de Back Bay. Famille aisée, 4 enfants, leur avait-on dit. Père cadre supérieur des assurances Hancock, mère connue pour pratiquer le mécénat artistique. École privée où il n'avait pas nécessairement brillé par ses résultats scolaires, sans toutefois s'attirer de problèmes. L'ironie du sort voulait qu'il ait eu une réputation de petit génie de l'informatique. Ses parents avaient déjà mis un avocat sur le coup. Ils pleuraient leur fils, refusaient d'admettre quoi que ce soit, et l'audition prévue en milieu de matinée promettait de n'être qu'une longue, interminable entrevue déchirante, du genre de celle qui n'apporte aucune information exploitable, mais vous flingue le reste de la journée. Autant laisser la jeunesse se faire les dents là-dessus. L'objectif, expliqua-t-elle à Neil et dans une moindre mesure à Phil qui connaissait son boulot, est d'être compatissant, de n'accuser leur fils de rien et de mettre la main sur ses appareils électroniques. Sur la fin de la phrase, elle regardait Phil, leur génie de l'informatique à eux.
« Le smartphone a été saisi sur place hier soir, mais ça laisse les ordinateurs, iPad, iPod, consoles de jeux. On serait étonné de savoir où les pervers planquent leurs données de nos jours. Le mandat de perquisition est large et je veux que vous en fassiez bon usage. On refilera tout ça à nos experts, qu'ils voient s'ils peuvent découvrir ce que Barry fabriquait exactement en ligne, et mieux encore, comment notre justicière autoproclamée a pu le suivre à la trace. »
16 ans, il ne pouvait pas être dans le fichier des délinquants sexuels, fit remarquer Neil.
Non, confirma Didi.
Même pas dans le fichier confidentiel des mineurs.
Alors comment l'assassin a-t-il su ?
Charlene Grant, enchaîna tout de suite haut. Elle était sûrement au courant de ses agissements parce qu'elle avait déjà répondu à des appels de ses victimes. Une preuve de plus que notre assassin possède des informations de première main, par exemple grâce à son boulot d'opératrice au commissariat de quartier.
À moins que notre assassin n'ait appâté Barry en ligne, dit Phil sur un ton neutre. Il prenait contact avec divers utilisateurs sur le site avec les animaux, et le premier qui lui envoyait du porno devenait sa prochaine victime.
C'est pour ça que notre objectif, répéta Didi à Neil et Phil, est de saisir tout le matériel électronique. Cette victime présente plusieurs différences importantes avec les deux premières. Son âge, l'absence d'antécédents, etc. Trouvez le lien avec les deux premières victimes et on pourra enfin répondre à quelques questions.
Fouillez son téléphone portable, cherchez dans le journal des appels à quelle date il a composé le 911 pour la dernière fois, suggéra O avec le plus grand sérieux.
Didi s'amusa de l'obsession de sa collègue.
Ce qui nous amène au sujet suivant, comment boucler notre enquête pour homicide en tendant un piège à Charlene Grant.
Pas trop tôt.
Voilà ce qu'on va faire, dit Didi en regardant Neil et O. Vous avez tous les deux raison. Nous avons affaire à un suspect plutôt ombrageux et susceptible de filer au premier parfum de soupçon. C'est pour ça qu'il faut agir avec prudence. Par exemple, on pourrait demander un mandat pour saisir son 22 au motif qu'elle répond au signalement de l'assassin. Mais comme l'a fait remarquer O, ça nous donnerait sans doute l'arme du crime, mais on perdrait l'assassin, vu que Charlene prendrait le maquis. Ou alors, on peut attendre qu'elle se présente pour prendre son service à 23h au commissariat de Grosvenor et que ses collègues saisissent l'arme pour nous.
Le capitaine O essayait de suivre le raisonnement.
« Elle avait son arme sur elle hier, » murmura-t-elle lentement, « alors qu'elle arrivait du travail quand tu l'as fait venir. Ce qui signifie qu'elle doit l'avoir sur elle en permanence, ce qui est contraire au règlement du commissariat, » conclut Didi. « La police de Grosvenor aura le droit de saisir son arme et par-dessus le marché d'autoriser toutes les recherches possibles.
Par exemple, des tests balistiques pour voir si les rayures du torus de Charlène correspondraient à celles de 6 balles retrouvées sur les 3 scènes de crime.
« Elle résistera, » avertit O. « Elle est convaincue d'avoir besoin de son arme pour le 21, c'est-à-dire demain. »
Peu importait à Didi. Dans ce cas, elle devrait relire plus souvent le règlement de son lieu de travail. Elle fait une erreur, on en profite.
« Bien pensé, » dit finalement O.
Ce que Didi aurait trouvé plus flatteur si la belle et jeune enquêtrice n'avait pas eu l'air aussi surprise.
« Ravie du compliment, » dit-elle en rassemblant ses notes en une pile compacte avant de se lever.
« Il suffira juste de garder notre petit secret quand on la verra cet après-midi. »«
On la voit cet après-midi ? Pourquoi ?»
O ne comprenait plus.
« On n'a pas encore de nouvelles liées à la page Facebook. Les gens commencent tout juste à la liker. Pour tout dire, je ne suis pas sûre qu'on ait assez de temps d'ici 20h demain soir, même avec la communication virale du web. »
Il ne s'agit pas de sa page Facebook, mais j'ai une nouvelle pour elle, qui vaut la peine qu'elle nous rende une petite visite.
Neil aussi s'était levé.
« Tu sais qui a tué ses amis ?»«
Non, j'ai retrouvé sa mère. »
Est-ce que toutes les filles ont peur de leur mère ? Après le petit déjeuner de Didi avec ses parents, il y avait de quoi se poser la question. Encore maintenant, c'est-à-dire avec 3 heures de recul, elle n'arrivait pas à décider quel moment avait été le plus humiliant. Peut-être celui où elle était arrivée dans le hall du Weston Hotel à Waltham et où sa mère lui avait demandé d'un air acide
« Tu n'étais pas déjà habillée comme ça hier soir, chérie ?»
Didi n'y avait même pas songé. Elle passait beaucoup de nuits blanches au boulot et changer de tenue vestimentaire était en général le cadet de ses soucis. Elle avait expliqué cela. Il se pouvait même que son père lui ait prêté une oreille bienveillante. Ensuite, il s'était attablé. Sa mère avait demandé où étaient Jack et Alex. Didi avait répondu qu'aujourd'hui, Alex donnait des cours à l'école et que Jack était donc à la garderie. Même tête de sa mère, comme si elle suçait du citron, d'où l'énervement de Didi. Si ses souvenirs étaient exacts, sa mère n'était pas vraiment le genre femme au foyer quand elle était petite. Trop proche d'obtenir sa titularisation pour y renoncer, elle avait repris l'enseignement. Didi était allée à la garderie, et d'ailleurs elle se rappelait avoir adoré ça. Il y avait d'autres enfants qui roulaient boulets et se salissaient en se marrant comme des baleines. La garderie, c'était le nirvana, et la maison, c'était...
« Tiens-toi tranquille, ne fais pas cette tête-là !» « Pour l'amour de Dieu, veux-tu bien arrêter de remuer une minute ?»
En général, la réponse était non. Non, Didi ne pouvait pas être patiente, ne pouvait pas se tenir tranquille, ne pouvait pas rester en place. Encore aujourd'hui, à 41 ans, elle passait les 2 premières minutes de son petit déjeuner à plier et déplier compulsivement sa serviette sur ses genoux. C'était ça ou hurler. Sa mère commanda une salade de fruits. Son père demanda des toasts. Didi, des œufs bénédicts, avec supplément de béarnaise. Sa mère parut s'offusquer. Graisse, cholestérol. Était-ce bien raisonnable de la part de Didi de manger des choses pareilles à son âge? Curieusement, pas un mot n'avait franchi ses lèvres. Pas une syllabe n'était sortie de sa gorge. En fait, elle n'avait même pas besoin de parler. Un simple haussement de sourcils lui suffisait à exprimer toute une gamme de jugements désapprobateurs. Si Didi n'avait pas été aussi profondément exaspérée, elle aurait été épatée. Ils ne parlèrent pas en attendant leur commande. Ils étaient là, un père, une mère, une fille qui, les années passant, ne parvenait pas à combler le fossé qui les séparait. Et pour finir, la colère avait laissé place chez Didi à un sentiment d'abattement. Parce qu'ils étaient ses parents, qu'elle les aimait à sa manière, qu'elle savait qu'ils l'aimaient à leur manière. Quel dommage que ça ne leur rende pas la compagnie les uns des autres plus facile à supporter. Leurs assiettes arrivèrent. Ils mangèrent avec soulagement. Didi commençait à penser qu'elle sortirait peut-être vivante de ce repas quand, ayant avalé sa dernière bouchée de melon, sa mère posa sa fourchette, la regarda droit dans les yeux et dit « C'est ça que je ne comprends pas. Si Alex est assez bien pour être le père de ton enfant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez bien pour que tu l'épouses ? Vraiment, Didi, qu'est-ce que vous attendez ?» Didi s'était figée, une fourchette pleine d'œufs bénédicts au-dessus de l'assiette, et avait regardé sa mère avec de grands yeux. Puis, après un temps, elle s'était tournée vers son père, qui étudiait la nappe blanche avec application. Le lâche. « Je suis contente qu'Alex te plaise », avait-elle finalement répondu à mi-voix avant de poser sa fourchette et de se précipiter vers les toilettes. Lorsqu'elle était revenue, sa mère, l'air pincé, regardait droit devant elle. Son père avait posé une main légère sur la sienne, mais Didi n'aurait pas su dire si c'était pour la réconforter ou pour lui demander d'être indulgente. Ils formaient un vieux couple séduisant. Elle s'en rendit compte en rejoignant la table. On voyait depuis l'autre bout de la salle qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et c'était peut-être bien là le problème. Ils formaient une unité, et elle-même était constamment l'intruse qui les regardait en spectatrice. Elle embrassa sa mère sur la joue et sentit sa nuque raidie. Elle embrassa aussi son père et sentit le frôlement sec de ses lèvres contre sa joue, puis elle régla la note et se sauva. Au bout d'un moment, il faut bien admettre les désaccords, même avec ses propres parents. Intellectuellement, elle l'acceptait. Mais c'était douloureux. Ça le serait toujours. Au moins, elle savait tout au fond d'elle-même que sa mère l'aimait. Elle se demanda ce que Charlène pensait de sa mère, une femme qui lui avait infligé des sévices physiques pendant toute sa petite enfance. Au moins, Christine Grant avait-elle laissé la vie sauve à Charlène, ce qui, à en croire les rapports de police que Didi avait parcourus le matin même, n'était pas le cas avec ses deux autres enfants. Parents et enfants. Mère et fille. Amour. Pardon. Et homicide. Didi prit son téléphone et passa le coup de fil.